On joint Alexandre Beaupré-Lavallée. Bonjour, Alexandre.
Bonjour, Hélène. Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va, Alexandre. Je suis un petit peu découragée quand même par la une de la presse d'aujourd'hui qui parle de dégringolade en français écrit pour les étudiants du secondaire.
Oui, c'est ça. En ouvrant la presse ce matin, j'ai pu lire ça aussi. En fait, c'était difficile à manquer. Et j'ai pris quelques minutes ce matin jusqu'à quelques heures pour consulter des collègues qui sont spécialistes dans le domaine pour avoir des nuances et des précisions sur ce qui est abordé dans l'article. Il y a quand même plusieurs collègues universitaires et chercheurs qui sont là-dessus, qui sont cités dans l'article, mais le constat général chez les collègues est, et je cite là, ben, on vous l'avait dit. Fin de la citation. On va résumer rapidement l'article de Marie-Ève Moraes dans la presse ce matin pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu. Mais commençons par dire qu'à la fin du secondaire 5, si vous avez suivi le secondaire 5, si vous avez terminé votre secondaire 5, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une épreuve uniforme de français, qui est un examen national pour tous les élèves qui se destinent à terminer leur secondaire 5 durant l'année dans laquelle le test se déroule. Les taux de réussite sont, par centre de services scolaires sont une des données qui est souvent utilisée pour comparer les centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, entre eux. Traditionnellement, des centres de services scolaires qui sont en région éloignée ou qui sont dans la région de Montréal, par exemple, vont avoir une moyenne d'un taux de réussite, donc des élèves qui ont réussi, inférieur à ceux de banlieue, par exemple, ou certains centres de services scolaires avec une population considérée comme plus favorisée. Bref, il y a tout un débat autour de est-ce que le taux de réussite à l'épreuve unique de français dans les centres de services scolaires est une mesure de la qualité de l'enseignement, de la formation qui se donne dans ces centres de services scolaires-là. Et cet examen-là est supposé, et là je cite, je suis sûr de ne pas faire dire à personne ce qui ne revient pas à elle, une collègue de l'UQAM, Isabelle Plante, dit au sujet de l'épreuve uniforme de français, je cite, on cite des attentes minimales requises, et ce qu'on voit dans les résultats de cette année, c'est qu'une forte proportion des jeunes ne l'atteint pas, fin de la citation. La presse a obtenu, après avoir fait une demande d'accès à l'information au ministère de l'Éducation, ce ne sont pas des données qui sont disponibles publiquement, que c'était la première fois, cet examen-là a eu lieu tous les ans, il a eu lieu en 2019, il n'a pas eu lieu en 2020, en 2021. Pour des raisons évidentes, en raison de la pandémie. Et en juin dernier, c'est le retour de l'examen. Et lorsqu'on compare les résultats de 2019 aux résultats de 2022, il y a des commissions scolaires, il y a des centres de services scolaires. Je m'excuse, je suis toujours pas habitué. L'exemple le plus frappant est en centre de services scolaires Fleuve et Lac, qui est passé d'un taux de réussite d'environ 83% à un taux de réussite de 50,5%. C'est-à-dire que 83 élèves sur 100 en 2019 avaient réussi l'épreuve ministérielle et en juin dernier, seulement la moitié avait réussi l'épreuve.
Ça a baissé dans tous les centres, sauf 6, hein, peut-on lire?
Oui, c'est ça. Et on va en parler à la fin, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Le texte décrit des statistiques pendant un bon bout de temps. Il y a un superbe tableau que la presse a compilé dans l'article qui est visuellement très frappant. Et tout le monde s'entend pour dire que c'est alarmant. Et Isabelle Plante et Nicole Monin. Nicole Monin est une collègue qui est professeure en centre d'éducation à Chicoutimi. Même au niveau du ministère de l'Éducation, tout le monde reconnaît que l'explication la plus plausible, c'est que les élèves qui étaient déjà en difficulté, c'est que ce sont les élèves qui étaient déjà en difficulté qui ont échoué. Donc, si vous aviez, par exemple, et que les résultats de 2022, c'est le taux de réussite des élèves réguliers, ceux qui ne sont ni à risque, ni vulnérables, ni en difficulté. Par exemple, ce que ça voudrait dire, le corollaire de cette hypothèse-là, d'Isabelle Laplante, c'est que, par exemple, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui était une des meilleures commissions scolaires en milieu urbain, en tout cas sur l'île de Montréal, à Québec et à Laval, qui avait 76 % de taux de réussite à l'épreuve ministérielle, est tombé à 60 % le centre d'études scolaires Fleuve et des Lacs, par exemple, passé de 83 à 50, et Pointe-de-l'Île, qui est Pointe-aux-Trembles la pointe est de l'île de Montréal, de 68 à 54. Les sommets, les Laurentides sont passés de 84 à 73. Le corollaire de l'hypothèse d'Isabelle Plante et de Nicole Monnet, c'est que, prenons par exemple le centre de service scolaire des sommets, qui est passé de 80 à 64, c'est que le cœur des élèves qui maîtrisent, qui auraient réussi probablement sans soutien, est de 64 % et les 16 autres pourcents qui réussissaient jusqu'en 2019, ben c'est les élèves vulnérables que les services du centre de services scolaires étaient capables d'aider au quotidien. Donc, c'est des élèves à risque ou des élèves vulnérables que le centre de services scolaires arrivait à faire réussir avec de l'aide aux devoirs, de l'orthopédagogie, etc. Et ces services-là, ils ont été excessivement difficiles à offrir durant la pandémie, ben on se retrouve avec ces élèves qui auraient dû réussir normalement et qui finissent par ne pas réussir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des centres de services scolaires qui a eu la plus faible baisse, donc un des centres de services scolaires dont le taux de réussite pré-pandémie semblait refléter le plus la réalité, en tout cas se conformer le plus à ce cœur de jeunes qui réussissent sans aide, ben c'est le centre de services scolaires de Montréal, qui avait un des taux de réussite les plus faibles et qui se retrouve maintenant en milieu de peloton. Mm-hmm.
68,5, 58,6.
C'est ça. Les centres de services scolaires performants n'ont pas réussi à fournir ce soutien habituel-là et du coup se retrouvent avec des taux de réussite qui sont comparables à ceux des CSS que l'on sait déjà éprouver des difficultés à soutenir les élèves à risque. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, c'est excessivement triste pour ces élèves-là, mais ça met en lumière, selon, et ça c'est mon hypothèse, c'est pas celle de mes collègues, c'est la mienne, ça met en lumière le fait que certains centres de services scolaires ont plus de ressources à dédier aux élèves vulnérables ou en difficulté, alors que d'autres n'ont pas cette marge de manœuvre de ressources-là. Quelque chose qui est intéressant à aborder dans l'article, c'est que l'épreuve ministérielle, l'épreuve unique, uniforme de français, valait pour 50 % de la note finale en français en secondaire 5 jusqu'en 2019, et maintenant ne compte plus que pour 20 %.
Ouais.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'épreuve uniforme de français, si elle a été relativement mal réussie à l'échelle québécoise, ben, il n'empêche que le cours de français de secondaire 5 a été réussi à 87 % en 2022. Et Marie-Ève Moras pose tout à fait la question que est-ce que les enseignants ont été plus généreusement à leurs élèves? Et ce que Nicole Monnet soulève, c'est que non, les enseignants ont probablement fait leur travail, les jeunes étaient probablement assez mobilisés, stimulés, mais que si ça avait compté pour 50 %, on aurait probablement eu un taux d'échec plus grand. Ça souligne le fait que là, il commence à y avoir une preuve réelle, c'est à ça que ça sert la recherche en éducation, c'est qu'on démontre comme ça réellement que si on joue avec la valeur de cet examen-là dans la note finale, et ça additionné à la chute en 2019 et 2022, faut commencer à se demander, ça nous démontre qu'il y a un écart entre ce que les enseignants sur le terrain dans les salles de classe enseignent et évaluent versus ce que le ministère considère qu'il est important d'évaluer. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a tort, ça veut dire qu'il faut on espère que l'écart va se resserrer. Si les chiffres reviennent à ce qu'ils étaient pré-pandémie, s'ils reviennent sur 2 ou 3 ans, là, quand Isabelle Plante et Mme Monnet disent que ça devrait se replacer l'an prochain, oubliez ça, ça se replacera pas l'an prochain. On a encore une cohorte qui a vécu le deuxième cycle du secondaire dans la pandémie qui va suivre ces épreuves l'année prochaine. Ces élèves-là vont avoir aussi des difficultés parce que l'enseignement du français, comme les autres matières, c'est une question de cycle au secondaire, donc 1, 2, 3 versus 4 et 5. Et les deux programmes sont différents, complémentaires, mais différents. Donc, probablement, moi, probablement que l'an prochain, ceux qui sont en secondaire 4 cette année vont probablement avoir les mêmes problèmes l'an prochain. Par contre, si sur 3-4 ans, ça ne se replace pas, ben, on va avoir un problème parce que là, ça veut effectivement dire que les centres de services scolaires n'ont plus les ressources pour faire réussir les élèves en difficulté. En tout cas, les élèves pas en difficulté, les élèves vulnérables ou à risque, et que ça confirme qu'il y a un écart. C'est-à-dire, est-ce qu'on enseigne vraiment ce que le ministère veut évaluer? Le dernier point qu'ils amènent, c'est un point que Suzanne Chartrand, qui est une spécialiste d'enseignement français, amène de dire que je vais donner sa citation, puis je vais en parler après. Citation, je la cite, c'est tous les profs que je connais disent qu'essayer de faire lire le moindre texte aux élèves, c'est de la croix et la bannière. Ils ne sont pas habitués. Ils lisent un paragraphe, on leur demande ce qu'ils ont lu, ils ne s'en souviennent pas. Faites la citation. Juste pour ceux qui vont le lire, se rappeler que Suzanne Chartrand, qui est une excellente intervenante autrement, elle intervient auprès des enseignants qui expriment un besoin de soutien en enseignement du français. Donc, des enseignants qui vivent déjà des problématiques avec des élèves. Et c'est pas surprenant que les profs qu'elle connaît, cet échantillon là soit un peu biaisé, puis ils surreprésentent des enseignants qui travaillent avec ces élèves-là. Pour avoir parlé à des collègues et avoir consulté d'autres textes et d'autres statistiques, ce n'est pas représentatif de la population enseignante, ni des élèves en général. Il y a un problème, mais ce n'est pas encore une hécatombe et ce n'est pas un signe que les jeunes ne savent plus perler le beau français. Il y a encore un peu plus de 60% des élèves qui réussissent l'épreuve, même en situation de pandémie, mais 40% des élèves dans les centres de services scolaires éprouvent des difficultés. Ça, on le savait déjà. Maintenant, cette épreuve-là vient juste nous le montrer. Il faut éviter de tomber dans l'apocalypse langagière, se serrer les coudes. Il faudrait que le ministère et les centres de services scolaires se parlent pour être sûr que tout le monde évalue la même chose. Et tout le monde l'avait dit, ça coûte cher durant la pandémie, mais ça va coûter cher après parce qu'on a des cohortes qu'on va appeler, et un jour, je suis sûr qu'historiquement, on va les appeler les orphelins de la pandémie ou quelque chose comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux services que leurs prédécesseurs et leurs successeurs vont avoir droit. Donc, on a comme société un effort à faire pour s'assurer que ces élèves-là aient les mêmes chances que tout le monde, aient accès aux mêmes services que tout le monde, et s'impliquent d'en faire un peu plus pour eux par souci d'équité. Bien, il faut en faire un peu plus pour eux.
Mm-hmm. Un des mots-clés, effort pour tout le monde. Et l'amour, la curiosité, exactement, des mots de la langue française, le goût de lire aussi, ça se transmet. Merci Alexandre Beaupré-Lavallée.
Merci Hélène. Bonne semaine.
Toi aussi.